Bonsoir. Visite de Jean-Marie Guénon, chef de mission de maintien de la paix des Nations Unies et la promulgation de la loi électorale, deux sujets d'actualité qui ont dominé cette semaine et qui seront au centre de notre discussion dans cette tribune de presse. Nous recevons dans cette émission Deborah Nkoulou, journaliste à Tropicana TV, Gabi Kwambamba, journaliste indépendant qui interviendra depuis les États-Unis, Michel Aveledi, directeur de la radio Vubukwetu de Mbandangungu, et Rombo Otaba, journaliste à l'Observateur. La loi électorale a été promulguée hier par le chef de l'État. La date de premier tour des élections est fixée pour le 18 juin prochain. Cette loi donne à la CEI la possibilité d'élaborer aussi les calendriers électoraux. Commençons cette émission par vous, Rombo Otaba. Rombo, comment vous avez interprété justement cette promulgation de la loi électorale qui a duré, était toujours en attente?
Oui, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est comme si nous continuions encore à nous considérer, nous les Congolais, comme des gros bébés qu'on doit pousser, à qui on doit apprendre à marcher. Et vous avez senti vous-même, ça fait au moins plus de deux semaines de suspense pour rien. La loi avait été déjà adoptée au niveau du Parlement. Et plusieurs jours après, c'est seulement plusieurs jours après qu'elle a été promulguée. Et à ce propos, la présence de Jean-Marie Guénon à Kinshasa doit y avoir été pour quelque chose. Donc là, une fois de plus, ça démontre notre irresponsabilité. On nous pousse, c'est comme si nous étions étrangers dans notre propre pays et que c'était les autres qui prenaient la juste mesure des problèmes qui nous concernent.
Et donc pour vous, si Jean-Marie Guénon n'était pas de passage, ça pourrait prendre encore beaucoup de temps?
Je suis poussé à le croire parce que...
Mais quelles sont les raisons qui vous poussent à croire ça?
Lui-même l'a dit, qu'après son entretien avec le chef de l'État, qu'ils en ont parlé et que le chef de l'État lui a donné ses assurances. Et voilà que quelques heures après, la loi a été promulguée. Donc d'abord, c'est parti au niveau du Parlement, le toilettage, ça a pris je ne sais pas combien de temps, et c'est arrivé au niveau du cabinet du chef de l'État, là aussi ça a pris du temps, et on est censé à croire que c'est vraiment Jean-Marie Guénon qui a fait débloquer le mécanisme, enfin on est censé de le croire.
Michel Aveledi, vous intervenez depuis Mbandangungu, vous êtes directeur de Radio Vubukwetu. Comment vous avez interprété cette promulgation de la loi électorale, tant entendu, mais qui vient un peu plus tard?
Moi, je voudrais dire que finalement, cette loi a été promulguée, malheureusement, comme mon ami venait de le dire tout à l'heure, et encore après beaucoup de temps. Et nous, de certaines provinces, on ne sait pas très exactement. Bon, malheureusement, là, je constate que même vous qui êtes à Kin, vous ne savez pas grand-chose de ces retards. Donc, on ne connaît pas exactement la raison de ces décalages entre la date de l'adoption de cette loi et celle de son dépôt sur la table du président de la République. Et puis, maintenant, entre la date du dépôt au bureau du président de la République et celle de sa promulgation qui n'est intervenue qu'hier. En fait, la notion, moi je dirais, de priorité et d'intérêt est tellement relative, n'est-ce pas? Parce que j'espère seulement qu'il ne s'agit pas une fois de plus là de cette léthargie suspecte, parce que il y a vraiment à se faire beaucoup d'idées, comme notre ami venait de le dire tout à l'heure là. C'est une léthargie suspecte que l'on reproche toujours à l'endroit du Congolais en général et du politique congolais en particulier. On sait quand même que finalement du plus grand au plus petit, les Congolais sont entrés dans une certaine culture, excusez-moi, des retardateurs, et c'est ce que nous venons d'expérimenter à l'endroit de l'Assemblée nationale et aussi du président qui a très tardivement promulgué la loi. Et si vous avez... je l'ai dit, les raisons ne sont jusque-là pas bien connues. Mais enfin, la loi est là Et immédiatement, c'est une date qui nous est donnée par le président de la CI.
Ouais, on va revenir sur cet aspect de choses, mais Michel, si vous avez constaté justement ce retard, est-ce que vous êtes d'avis comme Rombo que c'est sous pression aussi de la communauté internationale que finalement cette loi a été promulguée?
Bon, que ça soit vrai ou faux, c'est finalement l'impression que ça donne. On dirait qu'il y a une main invisible ou étrangère comme toujours qui doit nous pousser à aller de l'avant, comme s'il y a quelque part des agendas cachés. On ne sait pas exactement dire les choses comme il se doit, mais enfin, on nous ouvre toutes les portes possibles de pouvoir interpréter les actes posés dans les silences par nos autorités politiques, finalement.
Déborah Nkoulou, vous êtes Tropicana. Que pensez-vous justement de cette promulgation de la loi électorale qui est venue après plusieurs attentes, en réalité en retard par rapport au temps fixé?
Disons que c'est un peu comme mes confrères l'ont dit, c'est un peu un sentiment, disons, pas de dépit mais de déception. Des déceptions parce que l'impression générale c'est que l'on veut nous amener à assister ou à participer à des élections organisées à la va-vite, hein, c'est-à-dire que bon, on n'a plus beaucoup de temps. Le président de la commission électorale indépendante l'a dit hier, le calendrier est très contraignant, mais moi ce qui m'a un peu étonnée hier, j'ai suivi à partir de chez moi à la maison le point de presse tenu par M. Malou Malou qui essayait de justifier à la place de ceux qui doivent le faire. Pourquoi on doit aller au-delà de la date du 30 juin 2006? Il s'est mis à brandir la constitution de la Troisième République.
Non, on va revenir sur cet aspect de calendrier, mais restons d'abord sur le retard constaté de l'adoption jusqu'à la promulgation de la loi électorale. Vous avez entendu Michel qui ici relève un fait que les acteurs politiques actuellement n'ont plus la notion d'urgence. Et Rombo qui revient sur l'idée que si ça a été promulgué, c'est par une main invisible de la communauté internationale, par une pression de la communauté internationale.
Ben là, je crois que la dernière fois déjà nous l'avions évoqué ici, les politiques congolais, ils ont vraiment ce génie-là de vouloir ou de retarder, de savoir retarder les choses, de se perdre dans des querelles inutiles. Jusque-là, nous sommes encore embourbés dans cette question de Minembwe, l'affaire Olivier Kamitatou et Jean-Pierre Bemba de l'autre côté. C'est vrai, de toute façon, moi je ne crois pas qu'il fallait s'attendre à autre chose. Sinon, assez à quoi nous vivons actuellement et aboutir à la conclusion selon laquelle les politiques sont à la base de ce retard, ce grand retard, il faut le dire, ce ne serait que juste.
On va retrouver maintenant Gabi Kambamba depuis les États-Unis. Gabi, comment justifiez-vous justement ce retard constaté dans la promulgation de la loi électorale?
Et moi, je pense que nos acteurs politiques sont habitués au système du provisoirement définitif et du définitivement provisoire. Et il y a aussi la pratique alimentaire à tous les niveaux. On ne veut pas perdre ce qu'on considère comme les intérêts acquis. Et finalement, face à la pression internationale, on se rend compte qu'on a finalement atteint la dernière ligne droite à qui ne voulait pas peut-être entendre ce son de cloche. Finalement, les élections doivent absolument avoir lieu parce qu'en fait, depuis 90, depuis l'ouverture démocratique dans notre pays, on était habitué à tous ces atermoiements. On annonce une date et puis, voilà, par une certaine machination, on remet tout en cause, ainsi de suite. Mais là, comme effectivement la communauté internationale a consenti beaucoup de moyens pour l'organisation de ces élections, on n'a plus d'échappatoire et donc on ne peut qu'aller de l'avant et c'est un tout petit peu dommage justement que nous puissions subir en fait ce qu'on peut considérer comme une politique paternaliste de la communauté internationale alors que nous avons les moyens de nous comporter en adultes.
Déborah, vous étiez en train justement de rentrer ici au studio, vous étiez en train de parler maintenant de calendrier.
Oui.
Le calendrier fixe le premier tour le 18 juin, et met au mois de juillet la date de promulgation. Donc on connaîtra le prochain président de la République au mois de juin, mi-juin, mi-juillet. Comment justement avez-vous analysé d'abord cette nouvelle prévision de la CEI, puisqu'on est encore loin d'un calendrier précis, prévision donnée hier lors de la conférence de presse?
En tout cas, à entendre M. l'abbé, on dirait qu'on est vraiment parti pour respecter ce calendrier qu'il a présenté hier. Moi, je comprendrais encore que M. l'abbé puisse nous dire que la CEI n'avait pas d'autres alternatives que d'attendre, que d'agir de cette manière-là. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas agir, établir un calendrier aussi longtemps que la loi électorale n'était pas encore promulguée. Ça, on peut le lui concéder. Mais que M. l'abbé se mette à un peu donner des leçons aux gens, de dire que voilà, il faut se faire, il n'y aura pas de compromis pour ce qui est de l'UDPS. On a tout ce qui a été fait, on leur a donné une occasion, c'est-à-dire au prochain candidat de se faire enregistrer, mais il n'y aura pas question de rouvrir le bureau de vote. Il a également expliqué aux journalistes qui voulaient savoir pourquoi ce report, parce que c'est ça aussi la question que se pose la population. Pourquoi on doit aller au-delà du 30 juin 2006 alors que et le président Joseph Kabila et lui-même M. Labelle Malou Malou se rappelle de l'interview qu'il avait accordée au journal Le Soft International, il avait été clair. Il avait dit que les élections allaient être organisées avant le 30 juin 2006. Il avait été tranchant, il avait dit, et dans son assurance habituelle, on avait tous lu que M. l'abbé Malou Malou promettait aux Congolais les élections pour avant juin 2006.
Mais justement, on vient de relever le problème de retard dû justement aux acteurs politiques. Il y a retard dans l'adoption, retard dans la transmission de la loi, retard dans la promulgation. Est-ce que justement du retard,
ce n'est pas M. Malou Malou, je pense, de prendre la place des politiques et d'expliquer ce retard. Parce que
qu'il a expliqué le retard ou il s'est basé sur ce retard pour tirer des conclusions techniques de l'organisation de l'élection?
Bon, quand il dit, voilà, moi je vous brandis l'article 222 de la nouvelle constitution qui dit que les institutions des transitions restent en place jusqu'à ce que les institutions correspondantes soient mises en place, bon, ça gêne un peu, hein. Ça gêne un peu, et surtout dans la mesure où, vous voyez, quand vous regardez, on donne, je crois, 3 jours pour la campagne électorale, à moins que j'ai mal compris les choses, mais ça doit quand même faire réfléchir, et ça fait poser beaucoup de questions.
On retrouve Michel Aveledi depuis Banzangungu. Michel, la loi électorale a été promulguée, la CEI a maintenu ses prévisions, les premières qui fixent les premiers tours au 18 juin et la proclamation de résultats au mois de juillet. Comment avez-vous justement interprété cette prévision qui dépasse le délai constitutionnel d'après l'accord global et inclusif?
Oui, je crois que puis égard au retard déjà provoqué par l'Assemblée nationale qui a légiféré et par le président de la République qui a à peine promulgué la loi, je crois qu'effectivement un certain nombre de problèmes se posent, dont les fameux problèmes de la date du 30 juin, date du premier tour de l'élection présidentielle et même législative. Nous, ici, nous ne connaissons pas encore malheureusement la date prévue pour le second tour, mais nous ne voyons pas, peut-être que je suis obligé de tenir un discours malheureusement qui ne pourra peut-être pas être accepté de tout le monde, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, parce que nous ne voyons pas le mécanisme et la technique que la CEI mettra en place pour qu'en un temps si record, elle soit capable de publier les résultats définitifs du premier tour, organiser le deuxième scrutin, compter les bulletins, quand on voit ce qui s'est fait lors des référendums, les temps que ça a pris, publier les résultats. Il faut faire la même chose de toutes les façons pour les premiers tours. Donc il faut publier les résultats définitifs et pratiquement dans un délai si bref, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin, soyons conséquent envers nous-mêmes. Je vois mal que la CI puisse s'en sortir. Donc, par conséquent, on ne pouvait qu'aller au-delà du 30 juin. Seulement, ça ne pouvait être que cela. Et il fallait s'y attendre, vu les retards qui avaient été occasionnés par les deux institutions structures que je venais d'évoquer tout à l'heure. Là.
Rombo Otaba.
Moi, ce qui me révolte un peu, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je me rends compte que vraiment les autorités de ces pays qui se prélassent dans leur bureau climatisé à la Gombe ne se rendent pas compte de l'immensité des dangers qui guettent ces pays. Et moi, je suis convaincu et j'ai peur que le décor est maintenant planté. Le décor est vraiment planté et même les joueurs sont déjà mis en place pour l'implosion de ces pays.
Oui.
Parce que j'ai peur. On dirait que même au niveau de l'abbé Malomalou qui devait montrer un peu de souplesse, il se comporte comme il était carrément dans l'autre camp du pouvoir. On dirait qu'on ne tient pas compte de l'histoire de ce pays. Imaginez, en 60, après les élections, c'est ce qui s'est passé. En 65, on se préparait à des élections, il y a toujours
mais
des problèmes.
Justement, Rombo, avant de revenir sur tout ça, vous êtes en train vraiment de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quelle est cette chose qui ne va pas et qui menace l'avenir?
Mais justement, moi, c'est l'irresponsabilité. Parce que quand on a dépassé la première étape de la transition à juin 2005, vous avez vu la tension qu'il y avait dans le pays. Et pour reprendre les propos de Bora, l'abbé Malomalou avait même proclamé à ce moment-là qu'au plus tard, le mois de mars 2006, on aurait fini avec les élections, de sorte que de mars à mai, la Cour suprême puisse examiner les éventuels recours, et en juin, tout est parti. Et maintenant, de lui-même, sans même se référer aux politiques, parce que la CI doit venir solliciter la prolongation au niveau du Parlement.
Mais quelle prolongation? Est-ce qu'il y a encore ces mécanismes-là pour venir demander encore une prolongation?
Mais ce qu'il a fait là hier, mais il a automatiquement prolongé, je ne sais pas s'il faut appeler la prolongation ou carrément un coup d'État, ou c'est du gangstérisme politique tout simplement, ce qui est en train de se faire. C'est du gangstérisme politique.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'état actuel des choses, est-ce que sur quelle constitution faut-il se baser pour juger de tel acte ou tel acte? Faudrait-il qu'on se base sur la constitution de la transition ou sur la constitution de la Troisième République qui, elle, dispose qu'il faut attendre les institutions correspondantes?
Alors, mais justement, vous me rejoignez, c'est pourquoi je dis que le décor est planté. Le décor est planté, maintenant, peut-être que les acteurs, on ne les connaît pas, qui vont jouer ce rôle-là. Maintenant, c'est un problème. Maintenant, on va se référer à quel texte? À quel texte? Disons, après le 1er juillet. Comment va se présenter l'architecture institutionnelle? Il y aura encore le 1 plus 4 ou bien...
On a dit, les institutions restent en place jusqu'aux institutions correspondantes. Donc, c'est bien clair.
Et que faites-vous de la résolution du dialogue intercongolais qui proclamait haut et fort que la transition est de 24 mois, renouvelable deux fois 6 mois, point. Et on n'avait pas, parce que la constitution est l'émanation de résolution du dialogue intercongolais. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites de cette résolution-là? C'est pourquoi je dis que justement le décor est maintenant planté pour l'implosion. Je pense que la sagesse aurait souhaité, je ne voudrais pas parler de négociations ou quoi, mais qu'on se retrouve quand même pour trouver un modus vivendi. Parce que quand l'abbé Malomalou avec la CI, c'est d'autorité, établir un calendrier qui va au-delà du
30 juin, donc
sans une moindre concertation avec ceux qui sont là. Moi, je pense que c'est planter les décors pour...
Effectivement, donc pour vous, la seule solution, il faudrait encore appeler les politiques à une concertation ou une négociation pour planifier l'avenir.
Mais quand moi je parle de cette concertation, moi j'aimerais plutôt parler d'une réflexion, parce que quand on parle des négociations, des concertations, les politiciens congolais trouvent qu'ils ont toujours du temps.
C'est un autre problème. Oui. On retrouve Gabi Kwambamba. Gabi, votre point de vue par rapport aux prévisions de la CEI, prévisions qui dépassent en réalité le délai constitutionnel tel que disposé dans la constitution de transition.
Oui, moi je regrette surtout la prise de position de l'abbé Malomalou en ce qui concerne notamment l'inclusion de l'UDPS dans le processus, parce que l'abbé Malomalou apparemment ne se met pas au milieu du village. Je crois qu'effectivement, si on veut éviter, comme Rombo l'a dit tout à l'heure, l'implosion de notre pays, il faut que tout le monde se sente concerné dans l'organisation de ces élections.
Oui, mais s'il faut parler maintenant, Gabi, s'il vous plaît, s'il faut parler maintenant de calendrier d'abord, tel que donné par la CEI, quelle réflexion, quelle analyse vous portez sur cette prévision? On est encore loin du calendrier.
Oui, mais bon, moi je crois que c'était prévisible, hein, compte tenu de tout le retard à accumuler jusque-là, c'était donc prévisible. Bon, je crois qu'il ne faudra pas considérer la date du 30 juin, je l'ai dit la fois passée, comme une date fétiche. L'essentiel, c'est de voir les élections effectivement organisées de façon transparente, démocratique, et qui est la participation de tout le monde. Le 30 juin, c'est dommage justement, évidemment, cela prouve que nous sommes toujours loin du respect de notre parole. Et quand on a un poste considéré un peu comme politique et source d'argent dans notre pays, on a l'impression qu'on veut s'y éterniser. C'est ce qui arrive. Il y a comme un regret et il y a comme une nostalgie comme ça dans le chef des non-politiques à tous les niveaux, même ceux qui sont considérés comme des gestionnaires des institutions d'appui à la démocratie. Ils ont l'impression qu'il y a certains intérêts qui vont être supprimés. Donc je crois que quelque part, il faut situer tous les comportements, toutes les attitudes de ceux qui nous dirigent dans ce sens-là.
Oui, Gabi, vous venez de dire qu'il faudrait mettre plus l'accent sur les actions à poser, les actes à poser. Ici, ce sont les élections, mais il faut pas mettre l'attention sur la date. Maintenant, si on passait la date du 30 juin, et étant donné, vous avez aussi dit tout à l'heure, que les acteurs politiques n'ont pas le sentiment de l'urgence, n'ont pas, ne se sentent pas poussés et rapidement à faire quelque chose, pensez-vous vraiment qu'au-delà des 30 juin, ils auront une pression quelconque pour faire avancer rapidement des choses, des élections qu'on attend?
Bon, mais je crois qu'après la promulgation de la loi électorale et puis après la publication du calendrier, je crois qu'il n'y a aucune excuse maintenant de la part de l'abbé Maloumal ou d'autres institutions ou acteurs politiques. Il n'y a plus aucune raison pour dire que voilà, on n'a pas fait ça à cause de ceci, il y a eu un retard, il y a eu le problème des Minembwe ou quoi encore. Non, je crois que nous n'avons plus d'excuses. Ça serait une honte que l'abbé Maloumal convoque encore un jour la presse pour dire voilà, les élections n'auront plus lieu le 18 juin par la suite de ceci ou de cela.
Mais si par exemple, si on prend un cas concret, qu'il avait fixé la date des 18 juin sur base de la date de promulgation de la loi électorale qui était censée en principe être le 27 février. Et à partir du 27 février, comptait 110 jours, une période non compressible, ça nous faisait justement arriver à le 18 juin. Maintenant qu'on a dépassé largement ce 27, s'il faudrait, à tout réalisme et tenant compte de contraintes, est-ce que vraiment on peut avoir foi que cette date-là de 18 pourrait être la date où les élections seront organisées effectivement?
Oui, je crois qu'il faut se demander quelles avaient été au préalable les motivations pour fixer cette date du 18 juin. D'ailleurs, il y a quelques études, d'ailleurs, surpris d'apprendre que la date a été retenue parce qu'il y a, lorsque pour la première fois l'abbé Maloumal a annoncé cette date, la nouvelle passait en boucle sur CNN ici et d'autres chaînes câblées aux États-Unis. On a annoncé avec pompe que voilà, finalement, pour la première fois depuis son indépendance, les élections vont avoir lieu finalement en République démocratique du Congo. La nouvelle est revenue à plusieurs reprises en boucle sur les chaînes câblées ici aux États-Unis. Alors, on peut se demander si, en fait, quelle était la motivation pour fixer cette date-là. Peut-être que maintenant, face à la pression, on ne pouvait plus reculer. Et je crois qu'il y a sans doute eu une pression quelque part, et qui, je crois qu'il y a eu une consultation de l'abbé Maloumal avec les partenaires extérieurs, qui m'a dit, écoutez, mais je l'avais, on ne peut plus faire autre chose. Je crois que si ça dépendait de l'abbé Maloumal ou d'autres, on aurait eu à repousser encore cette date-là. Mais donc il faut tout faire dans ce délai. Maintenant, alors, la conséquence est que on va réduire certaines activités, le délai alloué à certaines activités, notamment la campagne électorale, qui n'aura le temps de 4 jours, pas tenu pendant 4 jours. Et 4 jours, on peut se demander, donc déjà dès le départ, il y en a qui vont repartir un peu comme des privilégiés, ceux qui ont déjà une certaine assise à travers le pays, et il y en a qui même ayant une assise à travers le pays, mais peut-être comme le cas de l'UDPS, je ne sais pas si je vais un peu vite en besogne, mais qui n'auront pas eu le temps de faire enrôler leurs militants. Donc, en fait, on a l'impression que, quelque part, c'est comme si l'abbé Maloma effectivement avait choisi son camp.
Jean-Marie Guénon, secrétaire général adjoint chargé de maintien de la paix, est en visite en République démocratique du Congo et sa visite, c'est le deuxième sujet de cette tribune de presse qui, je vous le rappelle, reçoit dans ce studio de Radio Okapi, Déborah Nkoulou, Gabi Kwambamba, Michel Aveledi et Rombo Otaba. Pendant 2 jours, l'adjoint de Kofi Annan doit discuter avec les animateurs politiques congolais. Il doit aussi circuler à travers la RDC, surtout dans les zones de crise. Avant d'abord de revenir sur l'analyse sur la visite de Jean-Marie Guénon, je vous propose de suivre lui-même le sens qu'il donne à cette visite qui intervient à l'approche des élections en RDC.
Je crois que la République démocratique du Congo est vraiment en train d'aborder un moment historique de son histoire. Au bout de 45 ans, la parole est donnée au peuple congolais. Il faut que ce rendez-vous avec l'histoire soit réussi. La communauté internationale, la MONUC, peuvent jouer un rôle dans ce moment vraiment fondamental. Et je viens au Congo pour voir avec les interlocuteurs politiques congolais, avec les responsables de la MONUC, comment jouer au mieux ce rôle, comment apporter une bonne contribution à ce grand moment historique de la République démocratique du Congo.
Voilà, c'est là le sens que Jean-Marie Guénon lui-même donne à sa visite en RDC. Commençons ce deuxième tour avec Michel Aveledi. Est-ce que à Mbanzangungu, où vous vous trouvez maintenant, les gens sont-ils informés qu'il y a quand même là en RDC le numéro 2 des Nations Unies qui est en visite et qui circule à travers la RDC?
Bon, certaines couches de la société, oui, hein, mais on remarque bien que la communauté internationale donne l'impression, je dis bien, l'impression d'être attentif aux problèmes du Congolais. Pourvu qu'il n'y ait pas d'agenda caché derrière toutes leurs visites et autres interventions qu'ils font, car pratiquement on sait que les problèmes qui a le plus détruit ces pays est lié à certains Congolais cupides, dont certains gouvernent d'ailleurs aujourd'hui, qui ont été utilisés par des étrangers, léopards qui sont peut-être, mais qui viennent couvrir des pots d'agneau. Pour revenir à votre question, donc Jean-Marie est en République démocratique du Congo. La population en est informée, même des questions se posent pour savoir si réellement c'est pour le bien de la communauté congolaise ou comment on sait quand même qu'il a rencontré par exemple le président Azarias Rouberoua. Ils se sont dit certaines choses et même semble-t-il qu'ils ont trouvé des compromis politiques. Eh bien, ça ne peut que nous réjouir. Mais là, une fois de plus, la balle revient au camp congolais pour se dire, mais finalement, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour que l'extérieur puisse toujours et éternellement se soucier de nous, alors que nous donnons l'impression que nous intéressons nos propres intérêts privés, je vais dire. Et pour parler, par exemple, de la rencontre avec le vice-président Azarias, il dit, n'est-ce pas, qu'il faut travailler et agir dans la responsabilité, il faut, n'est-ce pas, pouvoir chercher à trouver des compromis et aussi à essayer de résoudre certains problèmes dans la discrétion et non sur la place publique. Personnellement, j'ai trouvé en ces propos la marque même d'une maturité et d'un réalisme politique, parce que finalement, ce n'est pas n'importe quel moment de la vie qu'on peut entretenir n'importe quel conflit, hein.
Oui, mais justement, si la communauté internationale intervient en RDC et ses soucis, comme vous venez de le dire, des événements en RDC, mais que pensez-vous, quel sens vous donnez à cette visite qui intervient en ce moment proche des élections, mais au moment où il y a des querelles politiciennes qui de plus en plus dominent la scène politique congolaise?
Le sens, c'est que ça paraît bien une visite d'arbitrage, quoi. Il vient quelque peu assainir la situation telle que se passe là pour que finalement nous puissions quand même aller aux élections. C'est l'impression que ça donne. Mais moi, je parle toujours en termes d'impression, parce que finalement, tous ces gens qui viennent, même dans la rue, on le sait, ben, si le conflit finit au Congo, tous ces gens de la MONUC n'auront peut-être plus de boulot ailleurs. Donc, dans un premier temps, il y a l'impression qu'ils veulent notre bien, mais n'y a-t-il pas un arrière-fond? C'est là qu'on s'est dit finalement. Donc à nous maintenant, Congolais, de prendre notre histoire en main et de pouvoir, n'est-ce pas, et mener notre pays à bon port.
Rombo Taba, quel sens vous donnez à cette visite de Jean-Marie Guénot en RDC?
Oui, bon, je voudrais d'abord exprimer mon sentiment de tristesse parce que vous comprenez que la RDC a aujourd'hui 46 ans dans des souverainetés, dont largement un adulte. Et si aujourd'hui nous constatons ce balai diplomatique, Louis Michel qui revient, Karel de Gucht, tout ça, ça démontre que quelque part, du niveau de la communauté internationale, on sent qu'il y a un espace vide au niveau de la RDC et qu'il convient de diriger. Donc c'est qu'il y a quelque part une crise d'autorité dans ce pays.
Mais de l'autre côté, il y a aussi un vrai intérêt de la communauté internationale qui n'a jamais été plus qu'exprimé que maintenant.
Dans cette histoire-là de la communauté internationale, il y a à boire et à manger. De toutes les façons, et même Jean-Marie de Guénot l'a rappelé encore, c'est aux Congolais de prendre en main les destinées de leur pays. Quel que soit l'apport de la communauté internationale, en tout cas, nous, Congolais, nous devons intérioriser cette notion-là. Donc, ce ne sont pas les autres qui viendront, à moins qu'aujourd'hui, et je pense que d'ailleurs, de plus en plus, certains Congolais sont d'avis qu'on mette ces pays sous mandat de l'ONU, à moins qu'on en arrive là. Mais...
Donc pour vous, concrètement, vous voulez dire que la visite de Jean-Marie Guénot en RDC maintenant, c'est juste pour combler un vide qui menace la transition, les élections si proches.
Oui, mais puisque la communauté internationale trouve que nous-mêmes, Congolais, nous n'arrivons pas à appréhender la dimension des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors, ils sont obligés, parce que le peuple congolais a droit aussi à la solidarité internationale. Ils se disent, non, si le peuple congolais est en danger, allons, voyons voir qu'est-ce que l'on peut faire. Mais en tout état de cause, il n'y a que nous-mêmes, il n'y a que nous-mêmes qui devons prendre en main les destinées de ces pays. Je voudrais encore noter, parce qu'il est revenu là-dessus, même hier encore, il est revenu à la sortie, après son audience avec les chefs de l'État, sur l'inclusivité du processus en cours. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'organiser des élections qui, après, vont nous amener à une situation insaisissable, qu'on ne peut pas, non maîtrisable. Il répète là-dessus, parce que, comme Amba l'a dit, Déborah l'a dit, l'exclusion d'une force politique comme l'IDPS. Là-dessus, il faut qu'on soit un peu plus ou moins objectif. Qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, représente une certaine force dans ce pays. Donc si Jean-Marie Guénot parle de l'inclusivité, même si sa première pensée va vers ce que la communauté internationale considère comme minorité, c'est-à-dire ici la communauté de Banyamulenge, même si sa première pensée va vers cette communauté, mais il y a aussi la problématique de l'UDPS. Parce que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le pays est devenu ce qu'il est. Nous avons besoin de l'apport de tout le monde. Or, aujourd'hui, exclure une force comme l'IDPS du processus, moi je ne sais pas, est-ce que cela c'est résoudre une question ou c'est provoquer un problème.
Et donc,
c'est
pourquoi moi je retiens... Est-ce que vous pensez, parce que la communauté internationale, c'est vrai que même Jean-Marie Guénot l'a rappelé, il a rappelé la nécessité de l'inclusivité du processus, mais a dit que pour la question d'ouverture des centres d'inscription, il faudrait compter sur le 25 600 000 électeurs déjà enregistrés, et que simplement les candidats qui auront besoin de supporter au poste qui seront soumis aux élections, mais ces candidats-là sur place se feront enrôler s'ils n'ont pas fait. Mais est-ce que cette position-là de la communauté internationale, qui maintenant semble être tranchée, va permettre justement cette inclusion et cette inclusion du...
Oui, mais justement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure là que dans cette communauté internationale, il y a à boire à manger. C'est à nous maintenant à prendre les bons côtés, disons les conseils qu'elle nous donne. Il parle de l'inclusivité et quelque part, des gens qui ont des problèmes personnels avec Tshisekedi, avec l'UDPS ou quoi, ils sont catégoriques à propos de la réouverture des bureaux de vote.
Ouais, c'est ça justement qui renvoie la balle à l'UDPS. Maintenant, à l'UDPS de choisir de rejoindre ou pas, c'est-à-dire rejoindre, c'est-à-dire accepter cette disposition. On a enregistré beaucoup de Congolais et c'est une base équitable pour tout le monde et aux dirigeants seulement de venir et de se faire enrôler le jour de leur dépôt de candidature. Est-ce que la balle est maintenant encore au niveau de tout le monde pour appeler à des négociations, pour atteindre cette inclusivité, ou la balle est essentiellement au niveau de l'UDPS d'accepter ou pas?
Mais il y a un problème, parce que s'il n'y avait pas un problème, on ne parlerait pas aujourd'hui de la nécessité de l'inclusivité. Si on soulève cette question, c'est qu'effectivement il y a un problème qui se pose à ce niveau-là.
Ouais.
Alors, mais aujourd'hui, si les dirigeants de l'UDPS veulent se présenter aux élections, ce n'est pas pour faire de la figuration, c'est pour gagner les élections. Or, ils se disent qu'il y a certains de leurs militants qui n'ont pas été enrôlés. Donc, honnêtement parlant, ils se disent qu'ils ne peuvent pas se porter candidat dans la mesure où ils savent qu'il y a une bonne partie de leur électorat qui est en dehors du processus. Alors, c'est là où je trouve que quand les partenaires nous parlent de l'inclusivité, c'est à nous, Congolais, de nous approprier cette notion et de voir ce que nous en faisons.
Et dans les cas de l'UDPS, concrètement, il faut ouvrir le centre d'inscription.
Pardon?
Dans les cas de l'UDPS, pour permettre son inclusion dans le processus, il faut ouvrir le centre d'inscription, absolument.
En tout cas, à entendre M. Didon, hier sur Global TV, je suis censé à croire que ils en tiennent à cette condition.
Et donc on n'ouvre pas de bureau d'inscription, pas d'inclusivité donc. Mais la démarche peut être aussi inverse, c'est-à-dire que l'UDPS accepte la base de 25 600 000 électeurs, il va rejoindre le processus.
Aussi,
par cette voie, on peut atteindre l'inclusivité.
Enfin, c'est une question que vous me posez, mais à laquelle je ne peux pas répondre, n'étant pas dans une structure de l'UDPS. Mais
justement, aujourd'hui, la notion de l'inclusivité, on semble la charger que sur les institutions, mais pas sur l'opposition aussi qui doit faire un pas.
Mais le fait que ce parti-là ait accepté maintenant de rejoindre le processus, mais tout en posant une ouverture, une question et un problème, je pense qu'il faut réfléchir, parce que l'intelligence, c'est ça, devant des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne doit pas demeurer barricadé sur ces positions, dire que ou c'est ceci ou cela. Parce que en fait, si on utilise la ruse aujourd'hui pour dire que non, mettons cette frange de politiciens en dehors du processus, ça, on use de la ruse. Et vous savez, la conséquence de la ruse, c'est quoi? C'est du désordre, après tout.
Déborah Nkoulou, votre point de vue, justement, par rapport à la visite de Guénot et surtout à la problématique d'inclusivité de processus, il est revenu à plusieurs fois là-dessus.
Ben, si monsieur, la visite de monsieur Guénot peut contribuer à sauver ce qui peut l'être, je me dis pourquoi pas dans cette crise congolaise. Mais moi, je crois que avant tout, il faudrait quand même qu'on respecte le peuple congolais. Franklin, vous permettez que je revienne un peu sur le sujet suivant que nous avons évoqué, sur le processus électoral. On a dit au peuple congolais de voter oui massivement au projet, au texte constitutionnel, pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de prolongation et pour que les 1 plus 4 ne puissent pas perdurer. Et moi, ce que j'ai constaté sûrement avec mes autres confrères, c'est que si on n'a pas connu ces balais diplomatiques, M. De Goethe, Louis-Michel et maintenant M. Guénot, on serait encore là en train d'attendre la promulgation de la loi électorale et peut-être aussi même de l'adoption de la loi électorale. Il a fallu que les SIAT et les autres puissent taper du poing sur la table pour que la loi électorale soit adoptée au niveau du Parlement. Et il a fallu que M. Guénot soit sur notre sol pour que nous assistions à la promulgation de cette loi électorale après, bien sûr, un retard de 10 jours. Et donc, je me dis vraiment, c'est comme on le disait tout à l'heure, nous sommes en train, c'est vrai, il y a vraiment lieu d'espérer puisque la loi électorale est votée et je crois que tous les Congolais aujourd'hui n'aspirent qu'à la paix, n'aspirent qu'à un avenir meilleur par les élections, la tenue des élections, mais en même temps, lorsqu'on le regarde, on observe, on analyse, on se dit que il y a quand même pas mal de choses hein, qui restent inexpliquées et qui font craindre le pire. Aujourd'hui, les quelques militants de l'UDPS étaient dans la rue. Vous devez sûrement être au courant de ça. Et l'UDPS n'a pas baissé les bras. Hein. C'est vrai que Rombo l'a dit, il a montré un signe d'incrédulité. Il faudrait peut-être faire plus ou quoi. Moi, je ne voudrais pas entrer dans cette polémique-là. Mais je me dis que le politique congolais aujourd'hui doit jouer étrange jeu. Parce qu'il n'est pas pour rien, c'est un acier qu'on puisse tout le temps être derrière eux pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Qui nous dit finalement hein, que ces élections-là, ou le premier tour des élections, disons des résultats, on aura ça au 14 juillet 2006. Moi, je voudrais bien, j'attends cette date avec impatience pour voir ce que M. Malumalu aura à nous dire pour encore justifier un probable retard.
On retrouve enfin Gaby Kwambamba sur ces deuxièmes sujets qui, je vous le rappelle, est sur la visite de Jean-Marie Guénot et sur la nécessité de l'inclusivité de processus qui revient à chaque fois dans les discussions qu'il a avec les hommes politiques congolais.
Oui, bon, même si M. Guénot a dit qu'il ne venait pas en arbitre pour régler les questions congolaises, mais je pense que dans l'ombre, c'est la communauté internationale qui tire les ficelles et à voir comment les choses se passent. On a comme l'impression à partir d'ici, à partir de l'extérieur ici, que cette fameuse communauté internationale a déjà choisi son camp. C'est comme si déjà il y a un portrait robot d'un président ou du président et que les élections ne serviraient justement à une certaine formalité pour légitimer un candidat qui répond au portrait robot de ces candidats acceptés par la communauté internationale. On veut que les élections soient inclusives. Disons, moi, personnellement, je n'ai jamais été membre de l'UDPS, mais je crois que si on veut vraiment respecter l'opinion des Congolais, si on veut vraiment tenir compte de la participation de tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire qu'ici aux États-Unis, depuis deux semaines, il y a une organisation non gouvernementale de la communauté congolaise qui va organiser un semblant d'élection, en fait, parce que les gens n'ont pas été enregistrés. Mais par souci justement de faire ce devoir civique, les Congolais, à travers les États-Unis, vont voter. C'est vrai, on va pas compter leur voix, mais pour eux, c'est une première que de voir les élections démocratiquement élues dans notre pays. Alors, pour des gens qui ont vécu depuis des années sans voter, ça sera une occasion.